Bien, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur le robot comme personnage en bande dessinée et au cinéma. Nos intervenants aujourd'hui pour cette table ronde seront à ma gauche Valérie Mangin. Alors, vous êtes née en 1973, vous avez étudié à l'École nationale des chartes.
C'est ça.
Latiniste, historienne de l'art. Vous n'avez pas souhaité finir conservateur d'un grand musée. Et votre rencontre avec Denis Bajram vous a permis de passer de l'histoire avec un grand H aux histoires. Vos scénarios adaptent l'apparence du récit d'aventure et sont avant tout de grands jeux historiques, politiques, culturels. Vous aimez jouer de tous les codes des littératures populaires. Et avec Denis Bajram, vous êtes à l'origine de la création des éditions Cadran et vous participez à la fondation du Syndicat des auteurs, puis à celle des États généraux de la bande dessinée. Parmi les titres dont vous êtes l'auteur, on peut citer le péplum grandiose Alix Senator, également les chroniques de l'Antiquité galactique, Trois Christ et Abîme. Nous avons également Olivier Cotte. Alors, Olivier Cotte, vous êtes réalisateur, historien du cinéma d'animation, scénariste, illustrateur de bande dessinée, traducteur et écrivain. Pour le cinéma, vous avez travaillé avec Roman Polanski, Wim Wenders, Mathieu Kassovitz, Léo Scarrax, Costa Gavras. Vous collaborez aujourd'hui à des festivals, vous enseignez et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, essais, bande dessinée, nouvelles. Parmi vos parutions récentes, on peut citer en tant que scénariste L'Épouvantail, aux éditions Casterman, 100 ans de cinéma d'animation aux éditions Duno, et plus récemment Dark Vador versus Monsieur Spock, co-signé avec Jeanne Adebatz aux éditions Duno. Xavier Mauméjean, vous êtes né en 1963 à Biarritz, diplômé en philosophie et en sciences des religions. Vous êtes éditeur, écrivain, essayiste, membre du Collège de Pataphysique. Vous avez travaillé pour le cinéma et la télévision. On vous doit plusieurs pièces radiophoniques, des adaptations et créations originales pour France Culture. Parmi vos paritions récentes, on peut citer le roman Rosée de Feu, qu'on trouve en folio SF, American Gothic aux éditions Alma, et Kafka à Paris aux éditions Alma également. Arleston, vous êtes né en 1963, vous avez été journaliste, auteur dramatique pour France Inter, vous êtes tourné vers le scénario de bande dessinée au début des années 90 et vous avez rencontré rapidement le succès avec L'Enfeust, une série qui inaugure le cocktail aventure fantasy et humour, puis Troll de Troie, Les Forêts d'Opale, Les Naufragés d'Ithaque et beaucoup d'autres séries. À ce jour, vous avez scénarisé plus de 150 albums qui se sont vendus à plus de 14 millions d'exemplaires. En 2016, vous publiez votre premier roman chez ActuSF, Le Souper des Maléfices, qui est une fantaisie culinaire mêlant aventure et humour. Vous êtes également rédacteur en chef du mensuel L'Enfeust Mag. Gwen de Monval. Primé au Festival international d'Angoulême en 2010 pour Messire Guillaume. Vous êtes tantôt auteur complet, tantôt dessinateur sur des scénarios de Fabien Wellman ou encore scénariste pour des dessinateurs dont vous vous sentez proche. Parallèlement, vous avez créé en 2002 l'Atelier du Coin, magazine de bande dessinée pour jeunesse Capsule Cosmique. Vous fondez et dirigez ensuite la collection de BD des éditions Sarbacane, puis vous devenez directeur éditorial du mensuel de bande dessinée numérique Professeur Cyclope. Vos trois derniers ouvrages parus sont Bonneval Pacha avec Hugues Micol, Varulf avec Hugo Piette et Un petit détour et autres racontars avec Hervé Tancrel. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour parler du robot comme personnage au cinéma et en BD. Alors, en me penchant un peu sur le sujet, j'ai eu l'impression que les premières histoires de robots au cinéma et en bande dessinée étaient souvent, surtout, des histoires de savants fous. Et ensuite, avec le temps, les choses se sont un petit peu enrichies. Les premiers récits les plus courants sont généralement sur le type de ce que Asimov appelait le récit de robot menaçant, où on a en fait une créature de type créature de Frankenstein qui, bien souvent, se retourne contre son créateur, voire contre l'humanité tout entière. C'est la situation qu'on va trouver dans Metropolis, qui est l'un des premiers films présentant un robot comme véritable personnage. Situation qu'on trouve aussi en bande dessinée très tôt, par exemple dans le récit Radar le robot, qui est une aventure de Spirou Fantasio, qui date de 1948. Mais le robot menaçant, on le trouve plus près de nous dans un film comme Blade Runner. Dans un certain nombre de cas, le robot devient menaçant parce que son créateur a commis une transgression. Là, on est dans un schéma qui est proche du récit fantastique. C'est le cas dans Metropolis où l'ingénieur Rodvang crée le robot pour redonner vie à sa bien-aimée disparue. Il le fait également dans un désir de vengeance. On retrouve ce schéma dans un film peu connu américain qui s'appelle Colossus of New York, où nous avons un savant qui transplante le cerveau de son fils mort dans un robot. Évidemment, ça se retourne contre lui, ça se passe très mal. Ce thème parcourt le cinéma et la bande dessinée jusqu'à aujourd'hui, finit par rejoindre celui de Pinocchio, en particulier avec Astro de Tezuka, que Tezuka présentait lui-même comme un nouveau Pinocchio, et où Astro est un robot qui est créé par un scientifique pour remplacer son fils mort. Et cette espèce de glissement du mythe de Frankenstein vers celui de Pinocchio se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec le Pinocchio de Vinschluss en 2008, dans lequel Pinocchio est un robot. Il y a, me semble-t-il, un deuxième type de récit, plus près de nous, dans lequel on va rencontrer, pas exactement des robots, mais des cyborgs. Le cyborg étant un être humain amélioré, réparé, avec une partie de son corps qui va être un corps artificiel. Et là, il va s'agir généralement de redonner vie à un corps qui était en partie détruit. C'est le thème qu'on va trouver évidemment dans un film comme Robocop et dans le manga, dans Gun par exemple, où Gali est un cyborg trouvé dans une décharge qu'on va réparer et dont on va changer les parties de son corps à mesure qu'elles seront abîmées au combat. Qu'il s'agisse du robot Pinocchio ou du robot cyborg, il semble donc que bien souvent l'enjeu soit le même, et il s'agirait, pour paraphraser le livre de Mélisse de Carangal, dans la plupart des cas, il s'agirait de réparer les humains, sinon les vivants. Pour ouvrir le débat, je vais terminer par une anecdote relativement célèbre dans le monde de la science-fiction, dont j'ignore si elle est authentique ou apocryphe, mais qui est intéressante. En 1968, à la première du film de Mien l'Odyssée de l'espace, Asimov est dans la salle. Et au moment où l'ordinateur HAL entreprend d'anéantir l'équipage, Asimov se serait levé en hurlant « Il ne respecte pas les lois de la robotique ». Alors c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, parce que je me demande comment un homme aussi intelligent et avisé qu'Asimov, qui a écrit des histoires de robots, mais également des histoires d'ordinateurs, peut pousser la mauvaise foi aussi loin que faire semblant de ne pas être capable de faire la différence à l'écran entre un ordinateur et un robot. Et finalement, ça pose cette question, qu'est-ce qui, à l'image, qu'on soit au cinéma ou en bande dessinée, permet de reconnaître un robot? Et quand on est scénariste ou dessinateur pour la bande dessinée ou scénariste pour le cinéma, qu'est-ce que c'est qu'écrire pour un personnage robot? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières et comment va-t-on faire pour que le personnage soit identifié comme robot sans forcément faire appel graphiquement à des codes très particuliers comme le robot en d'apparence métallique ou sur le plan sonore, le personnage va-t-il forcément avoir une voix métallique? Il y a des films comme Blade Runner où le robot, l'être artificiel, est en tout point identique à l'homme à l'écran. Alors qu'est-ce que c'est qu'un personnage robot? Comment on lui donne vie? Et quelles sont les contraintes que ça implique? Et ça sera ma première question. Olivier Cotte, peut-être, sur cette question. Comment écrit-on pour un robot?
Alors ça, c'est un vrai problème. En fait, il y a sûrement deux soucis que je vois dans la représentation fictionnelle du robot. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un personnage, au niveau scénaristique, est-ce qu'il s'agit d'un personnage que l'on peut développer et traiter de la même façon que n'importe quel autre personnage du type organique, humain, puisque finalement, sauf justement dans l'idée même de Blade Runner, il n'a pas de passé, donc tout ce qui est technique d'écriture de scénario avec les backstories par personnage n'est pas vraiment adaptable tel quel pour le développement d'une psychologie d'un robot. D'ailleurs, peut-il avoir une psychologie? Est-ce qu'il est animé, finalement? Ça, c'est vraiment la question scénaristique qui est toujours délicate et qui varie énormément en fait, de film en film, parce que soit on se retrouve avec la boîte de conserve assez stupide, soit avec la personne qui, justement, parce qu'elle ignore même sa nature, comme dans Blade Runner, se retrouve à jouer comme un être humain classique, normal. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le problème de la représentation. Parce que finalement, plus on s'approche de l'androïde, ou même du cyborg, mais qui cacherait ses parties technologiques, comment faire en sorte, au cinéma notamment, de bien faire comprendre qu'il s'agit d'un être artificiel. Alors, c'est là où, par rapport à la BD, le cinéma a une force, c'est qu'il y a le mouvement. Quand on voit, par exemple, typiquement Terminator, la gestuelle que Schwarzenegger a développée pour le personnage à l'écran révèle en fait sa nature. Il y a une espèce de, je suis en train de le faire là en ce moment devant vos yeux ébahis, une espèce de mécanisation du mouvement qui fait que même si d'apparence d'extérieur, donc il semble humain, même si très musclé, hein, bon, mais personne n'est parfait, on lui pardonne. La gestuelle même fait qu'on comprend qu'il il est en fait organisé sur une base qui n'est pas biologique, mais qui est d'ordre industriel. En BD, évidemment, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il n'y a pas le mouvement, donc il faut travailler sur d'autres codes.
Alors la BD, par contre, a un autre avantage. C'est de, surtout historiquement, aujourd'hui évidemment c'est beaucoup moins vrai avec les techniques du cinéma d'aujourd'hui, mais la BD a pu se détacher beaucoup plus rapidement du robot anthropoïde, anthropomorphe, parce que techniquement au cinéma pendant longtemps on mettait un bonhomme dans un costume, donc il fallait vraiment qu'il ait deux jambes, deux bras, une tête qui respecte à peu près les proportions. Et Franquin par exemple, des radars le robot dont on voyait des images tout à l'heure, avait commencé à inventer des formes, même s'il gardait deux jambes, il gardait une structure d'être humain quand même, mais il avait commencé à inventer des formes. Et le robot devient très intéressant à partir du moment où il ne ressemble plus à un être humain. Pour tout le monde, bon, il y a évidemment le robot de Planète Interdite, mais il y a surtout Star Wars où on commence à voir un petit R2-D2 qui est jamais qu'une petite glacière à roulettes. Et à ce moment-là, on voit que le robot peut adopter toutes sortes de formes, toutes sortes de langages, puisque là, il s'exprime dans son propre langage, le cas d'un R2-D2. Et dans la BD, on avait depuis longtemps des robots qui pouvaient avoir, parce que ça coûte jamais qu'une feuille de papier et un crayon, qui pouvaient avoir des tas de formes différentes et donc des tas de natures différentes. Parce que la question très intéressante que tu soulevais du background du robot, c'est vrai que tous les scénaristes, quand on construit un personnage, on se demande qui sait, d'où il vient, quelle a été son enfance. Mais finalement, on peut faire la même chose avec un robot. Le robot ayant, par rapport à l'être humain, à la fois une difficulté et une force, qui est qu'en théorie, il est censé, lui, ne pas avoir de problème de mémoire. Puisqu'un être humain peut avoir occulté des choses, peut avoir un inconscient. Le robot ayant une mémoire absolue, peut-il avoir un inconscient ou pas? Dans ce cas-là, ça pose vraiment d'autres angles assez intéressants de ce côté-là.
Moi, je trouve que la représentation de l'androïde revient aussi beaucoup en ce moment, parce qu'il y a l'émergence de l'intelligence artificielle. Et du coup, on peut évoquer ce que, finalement, on peut faire appel à Philip K. Dick, qui a quand même drôlement abordé ce sujet sur ce que c'est qu'être un être humain, ce que c'est qu'un robot, est-ce qu'il est habité par une conscience, est-ce qu'il a une identité. Et il y a toute une réflexion, je trouve, en ce moment sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on vit, de savoir ce que c'est effectivement qu'un être humain, quelles sont les frontières, et le fait d'avoir des... On le voit même avec le monde animal, comment on traite le monde animal, comment, de l'autre côté, il y a les machines aussi, qu'est-ce qui nous sépare du règne animal d'un côté, qu'est-ce qui nous sépare des machines de l'autre. Et je pense que ce soit en bande dessinée ou au cinéma, cette thématique revient. On peut penser aussi à Ghost in the Shell, qui évoque cette problématique-là de façon assez somptueuse. Est-ce que la mémoire fait une conscience? On peut aussi penser à iRobot, Voilà. Est-ce qu'un robot, finalement, peut avoir un statut proche de celui de l'être humain? Où est la frontière? Et en ce moment, je trouve que ça revient complètement depuis peut-être une quinzaine d'années. Il y a Blade Runner, Ghost in the Shell, et puis en ce moment, ces thématiques sont...
C'est vrai qu'il y a la série Real Humans, par exemple, où on voit des robots qui sont d'exactes répliques des êtres humains, et où finalement, on se pose toutes les questions. Mais peut-on se marier avec un robot? Quels sont les droits civiques d'un robot? Un robot peut-il aller en prison? Un robot est-il responsable de ses actes? Et c'est vrai que toutes ces questions-là arrivent, puisqu'on voit arriver... On va arriver à l'intelligence artificielle, effectivement. C'est des questions qui ne sont bientôt plus de la science-fiction, mais qui arriveront peut-être pas dans la vie de tous les jours tout de suite, mais en fait qui nous concernent, qui nous concernent tous déjà, oui. Et qui dépassent largement le cas de la BD et du cinéma, pour le coup. Quoi.
Mais oui, c'est vrai quand même que c'est des questions qui étaient posées dans le roman depuis très longtemps, et que là-dessus, le cinéma a toujours un petit peu de retard.
Oui.
Alors finalement, le robot n'est-il naturellement esclave ou n'est-il naturellement libre? Xavier Mauméjean, peut-être.
Pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, il y a une semaine, j'étais à Tokyo, il y avait une boutique de vêtements et il y avait un petit robot qui travaillait dans la boutique et l'une des employées humaines, il avait dû se passer quelque chose avant, elle y a filé une gifle. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que c'était l'entrée du nouvel âge, les employés qui se disputent, humains ou robots confondus. Et effectivement, la question des droits des robots, elle se pose très vite, puisque en 1868, trois ans, sauf erreur, après la fin de la guerre de sécession, il y a une sorte de feuilleton aux États-Unis qui s'appelle The Steamman of the Prairies, et qui est un robot à vapeur qui se balade dans l'Ouest. Et il est libre, en fait. Il a été créé par un petit garçon qui est là aussi la figure du petit garçon inventeur, c'est l'imaginaire américain. Il a été créé par un adolescent et c'est un robot qui est en totale liberté et qui est un peu comme le Walden de Thoreau, c'est-à-dire libre, loin de la civilisation, etc. Et c'est l'une des premières apparitions du robot, avec Archie qui n'arrête pas de se promener sur notre écran. Là, on a par contre le robot serviteur fidèle, compagnon d'aventure, mais soumis à l'être humain. Et moi, je trouve que Tezuka va relancer tout ça avec la question d'une nouvelle liberté qui n'est pas la liberté naturelle du steamboat, mais une liberté politique qui se gagne. Et il y a notamment une relecture brillante Urasawa, il y a quelques années, il y a 6-7 ans, avec Pluto, qui est une splendide relecture d'Astro Boy, avec l'assentiment du fils de Tezuka, où on voit justement des robots qui se détruisent entre eux. Enfin, il y a un robot tueur qui en élimine d'autres, parce que ce sont des icônes les autres pour les humains. Et pour le bien des robots, il détruit des robots, c'est-à-dire qu'il a une conscience supérieure de la liberté qui suppose que l'affrontement entre homme et machine est dépassé. C'est l'affrontement sur la notion de liberté de conscience. Et il y a comme ça, depuis 1868, qui doit être vraiment une des premières occurrences du robot, hein, jusqu'à 2009, une réflexion sur la liberté du robot qui continue.
J'ai l'impression que la réflexion sur la liberté du robot est quand même assez récente, parce que dans les années 50-60, je pense qu'on se posait peu ce genre de questions. Enfin, j'ai en mémoire, par exemple, les romans de Stéphane Vull ou Rayon pour Siddhar, par exemple, où le robot est un double parfait de l'humain, mais un double soumis et esclave. C'est-à-dire qu'il doit absolument faire tout ce que veut son maître sans discuter, y compris se suicider, oui.
Et d'un côté, dans Les cavernes d'acier d'Asimov, Daniil, l'enquêteur robot, est l'un des premiers à s'affranchir du joug des humains. Et même Tezuka, dans les années 50 avec Astro Boy, pose très rapidement la question de la liberté des robots. Et il y a ce fameux Steamman, peut-être le premier robot de la littérature, qui lui est totalement libre, en fait.
Tout ça ramène à la définition, à l'essence du robot, c'est-à-dire à quel moment une machine devient-elle un robot? Est-ce qu'on le définit comme le moment où la machine prend conscience d'elle-même, prend conscience de son existence? Dans ce cas-là, on revient au problème de HAL et de 2001 dont tu parlais tout à l'heure. HAL est-il un robot? toute intelligence artificielle est-elle un robot ou non? Sinon, on peut assimiler toutes sortes d'ordinateurs et d'intelligence artificielle au robot. Le robot, à l'origine, bon, c'est le mot russe « robot », ça veut dire « travailler », donc il est censé être là pour travailler. On se doute que c'est pour travailler à notre place, donc il doit être assujetti de par même sa nature, par son essence. Mais aujourd'hui, on va vers des acceptions très différentes du mot « robot », puisqu'on va jusqu'au cyborg, et qui est, lui, un humain modifié. Donc, quelle va être la part d'humain? Quelle va être la part de modification? Est-ce que ça intervient sur sa conscience ou non? C'est vraiment là-dessus que tout se joue.
Pour revenir à la problématique de représentation, pour rebondir sur ce que disait Gwen tout à l'heure, c'est vrai que depuis quelque temps, on voit beaucoup plus d'androïdes au cinéma. Mais à ça, il y a une raison. C'est que comme on peut pas forcément toujours les faire jouer leur rôle par des acteurs humains, c'est là où finalement le trucage et notamment l'image de synthèse interviennent. Même dans les derniers Terminator, c'est assez évident. Il y a une évolution d'ailleurs dans toute la saga qui est assez parlante. Mais ça, c'est une évolution technique du cinéma qui est somme toute récente et qui évidemment influe sur l'écriture du scénario ou même les possibilités d'adaptation. Multiplier des personnes, parce que bon, finalement, ce serait des clones techniques ou tout simplement avoir des robots mais qui auraient des caractéristiques un peu particulières. Je pense par exemple au T-1000, évidemment, qui est métamorphe. On l'a développé parce qu'on peut tout simplement le faire. Alors, il est vrai que par contre, évidemment, en BD, c'était beaucoup plus facile et qu'en littérature il n'y avait évidemment aucun souci.
Le cinéma est dépendant des moyens.
Voilà, mais absolument.
Est-ce que l'androïde n'est pas aussi un choix parce que c'est plus facile pour nous de nous projeter sur des androïdes justement, quoi? Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement que le robot nous ressemble pour qu'on l'accepte en fait? C'est de même qu'on a donné souvent un sexe au robot, que le robot est un robot masculin ou un robot féminin, on peut se demander pourquoi, puisque finalement quitte à construire un être mécanique, il n'y a pas besoin d'être sexué. Après, peut-être que ce soit un homme ou une femme, ça facilite la communication avec lui, ça facilite son acceptation par l'homme. Peut-être simplement ça, en fait, qui facilite...
Oui, une proximité, une empathie.
Proximité, une empathie, exactement.
À la fois avec une attirance. On sent qu'il y a un désir fort que la machine devienne notre égale et une peur terrifiante aussi qu'elle, non seulement devienne notre égale, mais nous dépasse et deviennent une menace pour nous.
Ça, c'est une des situations de Georges Polti, hein, devenir Dieu, enfin, faire offense à Dieu en étant soi-même créateur d'une vie autonome, alors que c'est interdit. Donc, évidemment, ça nous retombe sur nous, puisque c'est de l'ordre du blasphème.
Mais c'est vrai qu'en voyant le sujet de la conférence, j'ai refait un petit check des BD et je me suis aperçu que finalement il y a assez peu de bandes dessinées où des robots interviennent. Quand on regarde par rapport à la production, le nombre d'albums qu'il y a chaque année, on retrouve toujours les mêmes quelques exemples, mais c'est un sujet qui n'est pas très très exploité dans la bande dessinée. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a un pays quand même, enfin une culture où le robot est quand même incroyablement... Voilà, le oui. Japon. Et ça fait longtemps. La production est gigantesque. Et alors là, on parlait de cinéma et de représentation. Il y a une autre caractéristique du Japon, c'est que quand même, ça reste quand même le deuxième producteur d'animation au monde. Et le Japon a énormément utilisé le thème du robot dans ses productions animées. Il se trouve que c'est effectivement très facile. Parce que là, non seulement on a le mouvement pour bien exprimer l'essence du robot, mais en plus on a la représentation graphique qui évite d'aller trop dans le détail et qui permet de faire à peu près ce que l'on veut. Donc on réussit justement à assembler BD et cinéma de façon assez maligne pour pouvoir finalement absolument tout faire, et quelle que soit l'époque, parce que dès les années 60 on n'avait aucun souci pour développer des séries entièrement tournant complètement autour d'un seul personnage robotique. Bon exemple, effectivement, Astro Boy pour commencer.
Oui, on pourrait peut-être même aller jusqu'à supposer que le robot, dans l'animation japonaise, en particulier à la grande époque de l'animation limitée, est peut-être le personnage idéal à animer, puisque les mouvements un petit peu saccadés, un peu rigides, les traits simplifiés...
Ça permet d'être cheap.
C'est très intéressant sur le plan économique. Olivier, vous parliez tout à l'heure du robot qui ne se limite pas à être une boîte de conserve stupide. Il y a justement en animation japonaise un type de robot qui apparaît dans les années 70, qui est le robot géant piloté de l'intérieur, qui n'est donc qu'une carcasse, une sorte d'armure ou d'habitacle. Est-ce que le robot est encore un personnage quand il n'est plus qu'une enveloppe ?
Alors ça, c'est peut-être une question personnelle pour moi, non. Mais c'est de la même façon que quand on dans l'absolu, on peut très bien dire aussi qu'une machine-outil ou un robot de construction dans une chaîne de fabrication de voitures est un robot à part entière. Mais je crois que ce n'est pas dans le sens là qu'on accepte le terme de robot. On veut quand même qu'il... soit qu'il nous ressemble, soit à la limite qu'il ressemble à un chien ou un cheval, n'importe quoi, mais à quelque chose de biologique et qu'il ait un minimum d'autonomie. Tant qu'il n'a pas d'autonomie, on ne le reconnaît pas vraiment comme un robot. Donc si c'est juste un véhicule télécommandable de l'intérieur...
Ah, je ne sais pas. Quand on voit la charge émotionnelle qu'il y a pu y avoir sur Goldorak dans notre génération, par exemple, on peut quand même penser que le robot géant était un des personnages du dessin animé, même s'il était piloté effectivement totalement par Alcor, par son pilote. Il reste que c'est quand même le dessin animé s'appelle Goldorak, déjà, qu'il y a quand même... c'est les jouets, on représente Goldorak, c'est à lui que les petits garçons s'attachaient. Donc c'est quand même devenu un personnage à part entière, même si effectivement c'est qu'une simple carcasse, c'est un simple véhicule. Finalement, on voit autre chose au-delà de ça. Sans doute pour ça qu'il a quand même un corps humanoïde, qu'il a quand même un visage... sans expression, mais je crois que les gens justement peut-être pouvaient projeter leurs expressions, leurs émotions derrière ce visage qui n'en avait pas.
Mais puis du coup, je trouve qu'on rejoint l'humain augmenté, c'est-à-dire que Actarus est dans Goldorak, il arrive à faire des tas de trucs qu'il ne pourrait pas faire tout seul. On rejoint les thématiques du transhumanisme actuel, et là c'est visuel, c'est représenté. La puissance, elle est immédiatement visible, tandis que on parlait de l'androïde qui ressemblait à l'être humain. Là, au contraire, c'est quelque chose qui est occulte. Donc j'ai l'impression que c'est la même question qui serait d'un côté appuyée pour que visuellement, on ait une sorte d'excitation, parce qu'on était très excités de voir Goldorak et les robots géants. C'est quelque chose qui visuellement est très fort et nous marque pour très longtemps. On est encore marqué aujourd'hui par ça. Et puis le côté androïde, c'est beaucoup plus métaphysique, en fait. Et là, on a une interrogation qui est plus intérieure, plus intériorisée. Et on peut le prendre ça au sens littéral, quoi, du coup, entre l'intérieur et l'extérieur, sur comment on veut représenter, quelle thématique on a dans la fiction.
Puis pour en revenir au japonais, il y a aussi, qui est culturel au Japon, la volonté de doubler le réel d'une construction artificielle, par exemple, durant l'ère Meiji, donc vers la fin du 19e, début 20e, il y a eu toute une... C'est même pas une mode, c'est un élan artistique qui consistait à faire des animaux en acier articulé. Donc vous aviez des animaux réels, comme qui va du tigre à la crevette, donc c'est des bijoux de miniaturisation qu'on pouvait démonter, des serpents et des dragons qu'on pouvait... organisés, qui étaient très souples alors qu'ils étaient en acier, et des dragons et des créatures inventées. Et donc, alors qu'il n'y a pas encore du tout la réflexion du robot, de l'automate, de l'androïde et de toutes ces déclinaisons, il y a déjà au Japon la volonté de doubler le réel d'imitation métallique.
Merci. Je vais ajouter une question. On parlait tout à l'heure du robot créé à l'égal de l'homme et qui peut-être, dans certains cas, lui devient supérieur, même si ce n'est pas forcément le souhait initial du créateur. Le robot peut-il être meilleur que l'humain ? Peut-il être plus fort, plus intelligent, plus fidèle ? qu'est-ce que ça...
Alors, plus fort, certainement, c'est même généralement un de ses objectifs. On le construit parce qu'il doit être capable de faire plus facilement des choses que l'humain ne fait pas. Plus intelligent, ça commence à faire peur à l'humain. Et s'il ressent des émotions, là, ça terrifie l'humain complètement. Donc, le robot idéal tel qu'il est généralement décrit par ses concepteurs est là pour seconder l'humain. Mais, évidemment, pour faire une bonne histoire, si on en fait juste une machine-outil, un tracteur, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, nous, on a besoin de faire en sorte que ce robot commence à se poser des questions sur lui-même et transgresse les règles qui lui ont été fixées par son créateur.
C'est vrai que là, il y a une vision radicalement différente, peut-être entre les Japonais et les Américains du robot. C'est-à-dire que les Japonais le voient vraiment comme, même s'il est intelligent, comme un aide à l'humain et quelqu'un qui serait proche d'eux, qui serait toujours bienveillant, enfin toujours, j'exagère, qui serait le plus souvent bienveillant. Alors que chez les Américains, la figure du robot est beaucoup plus inquiétante. Enfin, sans aller jusqu'à Terminator, qui n'existe que pour tuer les humains, la thématique de la guerre robot-humain avec la victoire finale des robots est quelque chose qui revient régulièrement dans l'imaginaire anglo-saxon. Peut-être nous, les Français, nous sommes entre les deux avec la tentation du robot bienveillant comme celle du robot destructeur. Hein.
Alors on parle justement des robots américains, des robots japonais. Quid des robots français? Alors, je ne crois pas pouvoir trouver d'exemple de robots dans le cinéma français, mais enfin, en bande dessinée française.
Oui, c'est nous qui avons créé les automates. C'est Vaucanson, 18e siècle. La première réflexion sur l'automate, c'est nous qui avons inventé le terme Android. Donc, avant tout le monde, c'est ici qu'on a pensé l'humain artificiel.
Oui, ma question, c'était où sont les robots dans la bande dessinée française, par exemple, et est-ce qu'ils ont une
spécificité? Ils sont beaucoup moins présents que chez les Japonais, que dans le manga, bien entendu. On voit de ci, de là, quelques robots en personnages secondaires, mais ils ne sont pas très, très présents. C'est vrai que quand on cherche des exemples, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai cherché un petit peu et je n'arrivais pas à en trouver en bande dessinée européenne. Je n'arrivais pas à trouver d'exemples vraiment marquants. Voilà, un robot méchant chez Franquin, quelques, je dirais plus des automates à droite ou à gauche que de véritables robots. Moi-même, je me suis aperçu qu'en 170 bouquins, finalement, j'ai fait un cyborg et ça date d'il y a 2 ans. C'est pas quelque chose qui a l'air très ancré dans la culture de la BD européenne.
Oui, on a eu Skydoll chez notre éditeur Soleil il y a quelques années.
Voilà, il y a Skydoll, bien sûr.
Et c'est vrai que c'était avec un dessin en plus inspiré du manga, donc c'était assez amusant. Mais c'est vrai qu'à part ça, il y en a très peu. Moi, c'est pareil, en 20 ans de carrière, je crois que j'ai dû créer 2 robots, dont un pour une adaptation d'un roman, donc qui n'est pas ma. Ouais. Et c'est tout. C'est vrai que c'est un thème assez rare, quoi.
Alors. Bah, moi, je ne l'ai pas encore fait non plus, mais il se trouve qu'on est avec Fabien Vellman, Fred Blanchard et Hervé Tancrel en train de travailler sur un projet de robot géant aussi, qui se passerait en France et notamment en Loire-Atlantique aussi, sur les chantiers de Saint-Nazaire, dans une légère uchronie, à savoir que le général de Gaulle est resté un peu plus longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et pour reconstruire la France, a d'abord fait appel à des robots géants pour aider même en France et aussi dans les colonies. Donc on va ancrer ça dans quelque chose de très français et on va voir si ça a sa place dans le paysage français. Pour l'instant, effectivement, on ignore si c'est possible ou pas.
Alors il a demandé à la régie Renault de fabriquer des robots.
Non, on va d'abord faire nos propres robots, puis après... On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut avoir une résonance avec l'histoire de la France aussi, de la reconstruction des chantiers de Saint-Nazaire et de Nantes. Donc il y a quelque chose qui nous a interpellés, même sur la condition ouvrière, sur l'histoire de la France avec les colonies, sur le fait d'être... finalement, la question se pose aussi de le fait d'habiter le robot, c'est plus un navire aussi, ou une machine de construction. Et là, on est limite par rapport à la question de est-ce que c'est encore un robot ou pas. Pour nous, oui, par rapport à Goldorak, et le fait qu'on soit tous identifiés à ça. Et puis aussi, peut-être qu'il aura, une sorte d'aura particulière, ce robot, qui fait qu'on pourra le personnifier et lui donner quelque chose de particulier qui lui donnera son identité de robot, quoi. Mais nous, on a pensé qu'il y avait quelque chose à faire en France, typiquement, avec les robots.
Mais il aura une intelligence artificielle ou c'est qu'une machine ?
Pour l'instant, c'est qu'une machine.
Avec il sera piloté de l'intérieur, comme les robots géants japonais ou...
Ce sera un équipage, en fait. Finalement, on peut rapprocher ça des équipages de sous-marins, finalement. Où il y a une volonté à la fois de parler du monde ouvrier pour la construction du robot, mais aussi du collectif, le fait d'être plusieurs à conduire une grande machine. Donc ouais. Ça, c'était important aussi d'avoir cet aspect collectif. Et d'ailleurs, le récit se fait à quatre auteurs.
Alors, j'ai une question qui est peut-être impertinente, mais finalement, s'il s'agit d'un vaisseau piloté par un équipage, pourquoi ça s'appelle robot ?
Eh bien, il se trouve que c'est quand même un robot, c'est quand même une machine qui est là pour, au départ, comme tu le disais, servir, pour travailler. Et donc, là, typiquement, reconstruire la France de l'après-guerre, il me semble qu'il y avait du travail, quoi. Et puis après, on va voir comment on le développe, parce que, comme je disais tout à l'heure, il aura peut-être une aura particulière.
Oui, parce que sinon, pour continuer ta question, pourquoi est-ce qu'un truc avec des lames pour faire de la soupe, on appelle ça un robot ?
Robot mixeur.
Enfant, j'ai toujours trouvé que ce terme était complètement usurpé. J'ai jamais trouvé que ça ressemblait vraiment à un robot. Les
oui, on était tous très déçus quand on ouvre la boîte. Hein.
C'est une démarketing, je crois.
On a un petit peu parlé des cyborgs tout à l'heure. À l'âge du transhumanisme, où on parle de l'être humain amélioré, de l'amélioration de l'humain, peut-être même de un jour de son immortalité, est-ce qu'il reste encore une place pour le robot ?
Oui, parce qu'il y aura toujours des environnements dans lesquels l'homme ou le cyborg ne pourrait pas aller. Je pense que pour travailler dans l'espace, par exemple, ou voyager à longue distance, le robot reste quand même la solution, la meilleure solution.
Ma question, ça portait même pas tellement forcément sur la réalité, mais plutôt dans la fiction. Aujourd'hui,
aussi,
raconter des histoires de robots,
si on fait une fiction un peu réaliste, je pense qu'on aura toujours besoin de robots pour aller dans l'espace, par exemple.
Mais enfin, quand il ne s'écrase pas à la surface de Mars, malheureusement.
Est-ce qu'on a envie de réduire en esclavage des cyborgs comme on peut réduire en esclavage un robot ?
Il y a quand même un point. J'imagine pas, comme dans Planète Interdite, un homme augmenté en train de fabriquer du whisky parce qu'on lui a donné un échantillon. Le robot est absolument indispensable.
200 litres, il a fait. 200 litres, il a fabriqué. On sèche un peu sur cette question.
Non, c'est pas grave. Mais le robot de Planète Interdite, par exemple, vous considérez que c'est un personnage ? Parce qu'il a beaucoup marqué à son époque. J'ai découvert, en préparant cette table ronde, que le robot a même tourné dans un second film par la suite, l'année suivante, qui n'a absolument aucun rapport, mais sur l'affiche duquel il est écrit « Avec Robbie le robot ». Et il a une apparence absolument identique. Mais dans Planète Interdite, est-ce que c'est un personnage ? Et pourquoi ?
Ben, c'est un personnage, et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans les personnages de robots, c'est d'arriver à faire en sorte que le lecteur, ou le spectateur en l'occurrence, projette de l'affectif sur quelque chose qui n'est que mécanique. Donc, pour projeter de l'affectif, il faut lui prêter une intelligence, lui prêter des émotions, lui prêter un mode de pensée, de fonctionnement proche du nôtre. Sans quoi on ne peut pas arriver à vraiment aimer une machine. Pour prendre un exemple, bon, il y a d'accord des gens qui aiment leur voiture, mais enfin, ça n'a jamais qu'une voiture. Par contre, les spectateurs de ma génération qui regardaient la télé à l'époque ont projeté de l'affectif sur K2000, qui était une voiture robot intelligente. Donc, tout de suite, on pouvait projeter quelque chose, on pouvait créer un lien. Or, nous, notre métier de scénariste, c'est d'arriver à créer un lien entre le lecteur et les personnages qu'on met en scène. Quand on met en scène des choses qui ne sont qu'esthétiques, mais qui n'ont aucune résonance humaine, finalement, il faut humaniser le robot pour arriver à créer un lien affectif avec le lecteur. Le problème, c'est que quand on l'humanise, jusqu'où va-t-on ? Alors, pour l'humour, on joue sur les décalages, évidemment, ça c'est la partie la plus pratique, mais sinon, est-ce qu'on va l'humaniser jusqu'à ce qu'il soit semblable à l'humain, jusqu'à ce qu'il soit supérieur à l'humain ? Et quid de ses propres relations affectives ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'un robot va percevoir les émotions ? Va-t-il en percevoir ou non ? Va-t-il rester dans de la pure logique, comme ça a longtemps été le cas du robot de science-fiction ? Et puis petit à petit, le roman a commencé à s'intéresser à le robot peut-il ressentir des émotions ? Donc là, on rentre dans une autre sphère. Et tout ça, c'est à l'auteur d'essayer de trouver sa bascule là-dedans, avec toujours ne pas oublier, nous, notre souci d'auteur, qui est qu'est-ce que ça va amener que j'en fasse un robot au lieu d'un personnage humain ? Qu'est-ce que ça va amener en plus ? Sinon, on prend un humain, on n'a pas besoin d'un robot.
Pour Roby, effectivement, dans la lignée de devoir humaniser le robot, ce qui est amusant, puis on le voit en plus dans les affiches, c'est que Roby joue son rôle. C'est-à-dire qu'il a été présenté comme acteur, il apparaît aussi dans au moins un épisode de Twilight Zone, il était présent à une soirée des Oscars. Donc ce qui est amusant, c'est que Roby est identifié comme un acteur. C'est un peu comme si Darth Vader jouait dans une comédie new-yorkaise habillé en Darth Vader.
Pour en revenir à la relation entre humain et robot, la grande histoire d'amour entre un humain et un robot a-t-elle déjà été racontée au cinéma ou en bande dessinée ? C'est quand même un thème prometteur.
Rank Xerox, on le voit.
Oui, on a Rank Xerox. On a quand même aussi... Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Qui est une belle histoire d'amour aussi, Blade Runner.
Il y a la survivante dans un autre style.
La question des relations sexuelles entre robots était plus abordée que celle de l'amour entre hommes et robots.
Oui, bon, ça faisait partie de ma question, effectivement.
Je crois que le robot est souvent vu, enfin souvent, et parfois vu comme un substitut au partenaire éventuel et un substitut qui serait plus efficace, on va dire.
Après, il y a l'histoire d'amour qui est plus avec l'intelligence artificielle, mais il y a Heure aussi qui est intéressant sur quelque chose Heure, justement qui est loin d'être un partenaire potentiel. Là, c'est complètement éthéré et virtuel. Et là, c'est une vraie histoire d'amour, mais c'est pas un robot, c'est une intelligence artificielle. Oui, je sais pas, sinon... Tu citais Real Humans.
Real Humans, effectivement, il y a une histoire d'amour entre une femme et son robot qu'elle finit par essayer d'épouser. Alors, je ne sais plus si elle y arrive finalement ou pas, mais c'est parce que ça pose tout un tas de questions juridiques, mais effectivement, là, le robot devient tellement proche de l'humain qu'on peut tomber totalement amoureux de lui, oui.
Mais, oui, et dans Barbarella, il y avait aussi une scène entre Barbarella et l'ange robot ailé, dont elle disait qu'il avait des élans un peu mécaniques.
Et alors, la grande histoire d'amour entre deux robots a-t-elle déjà été racontée ?
Ils vécurent heureux, ils ont plein de petits boulons.
Après tout, si le robot peut simuler, imiter ou même ressentir des émotions, qu'est-ce qui fait que deux robots ne pourraient pas se rencontrer, ignorant même qu'ils sont dans les autres un robot, et s'aimer ? Je ne sais pas si ça a déjà été abordé, ce type de récit.
Ben voilà, t'as un bon sujet.
Je crois qu'il y a une histoire comme ça où un homme d'affaires très occupé veut se marier. En fait, il n'a pas le temps d'avoir des rendez-vous. Donc il envoie un robot en fait, qui lui ressemble à sa place. Et où on découvre à la fin de l'histoire que la jeune femme qui était censée rencontrer était aussi une robot en fait, qui avait aussi été envoyée par quelqu'un. Et finalement, les deux robots sont tombés amoureux l'un de l'autre et partent ensemble en laissant les deux humains tout seuls et bien solitaires.
C'est un homme de fer très occupé, du coup.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce thème ? Oui.
Bonjour. Je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez, une espèce d'opposition entre les robots tels qu'ils sont vus aux US ou au Japon. J'avais lu il y a quelques temps de cela que ça s'expliquait notamment sur un point de vue culturel, les Américains et Européens étant souvent donc, de religion judéo-chrétienne, voyaient souvent cette espèce, les robots comme une espèce de terreur en disant bah, c'est un blasphème, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Dieu, on ne peut pas transcrire, pervertir l'œuvre de Dieu en recréant donc, à sa place. Tandis que les Japonais, qui ont plus des religions shintoïstes, où ils ont, disons qu'ils voient une âme dans chaque chose, voient donc pour le coup les robots de façon beaucoup plus positive, puisqu'ils peuvent avoir une âme, puisque chaque chose a théoriquement une conscience. Et c'est pour ça que c'est notamment pour ça que j'avais lu ce que l'article expliquait, que dans, pour les Japonais, les robots sont tout à fait capables d'éprouver des émotions, des sentiments, et ça c'est d'ailleurs très très bien représenté dans Ghost in the Shell. Et par rapport à ce que disait Arleston, comme quoi les robots sont assez peu représentés dans la BD, je me souviens notamment très très bien dans la caste des Métabarons que les narrateurs sont d'ailleurs deux robots qui discutent de façon assez comique, et récemment la saga Android qui est sortie, qui est tout à fait passionnante, qui s'inspire de récits d'Asimov. Donc c'était un peu ce que je voulais apporter par rapport au débat, si vous voulez rebondir dessus ou des questions.
Non, en fait, j'allais vous répondre, mais comme vous, en fait, vous l'avez exprimé, c'est vrai qu'il y a le côté kami au Japon qui fait que tout peut être considéré comme un esprit, donc animé. À partir de là, effectivement, il y a sûrement moins de problèmes pour considérer le robot comme faisant partie de l'univers de tous les jours et non pas comme un intrus qui se retrouve à être un antagoniste.
Du coup, c'était par rapport à la... c'est par rapport à les relations entre robots. Et je pense que le jeu vidéo va commencer à s'en intéresser, justement. Le jeu Détroit qui va sortir dans pas longtemps de Quantic Dream... je pense qu'ils vont exploiter l'idée de relation entre robots. Donc ça serait à Détroit, justement, il y a pas mal de robots, ils commencent à avoir une conscience. Mais là, du coup, ça va plus sur ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la dissociation de robots et de IA, en fait, aujourd'hui, quand on regarde des films comme Le Géant de Fer ou même plus récemment Chappie ou d'autres Automata aussi, d'autres films comme ça, où finalement, IA et robots sont tellement ensemble qu'on ne peut plus vraiment les dissocier.
Mais de toute façon, c'est vrai que c'est le problème de la définition du mot robot, ce que je disais tout à l'heure sur le fait, le robot est-il une simple machine ? Devient-il un robot à partir du moment où il possède lui-même une intelligence artificielle ? Une intelligence artificielle sans, je dirais, bras mécaniques, sans expression autre, sans possibilité physique, est-elle un robot ? Chacun a sa propre définition du robot à ce moment-là. Pour moi, la mienne, c'est qu'il doit y avoir une intelligence artificielle à l'intérieur d'un ensemble capable de se mouvoir et d'effectuer des actions physiques. Voilà, c'est ma façon de concevoir le robot, mais il y en a sans doute d'autres.
Et en plus, l'intelligence artificielle, en tant que... qu'élément du robot peut être défini même sans le corps du robot, c'est le propre du test de Turing, où on va savoir si un robot est un robot en mesurant son intelligence artificielle et pas du tout son corps. Donc effectivement, ça me paraît indissociable du robot, l'intelligence artificielle.
Ou alors l'intelligence humaine, si on reprend le cas... d'Albator, de Goldorak, pardon, avec, du coup, c'est l'humain qui est à l'intérieur de la machine qui donne sa propre intelligence au robot, qui, quelque part, fait corps avec lui, donc, je dirais, fait don de son cerveau au robot.
Et à l'inverse, le transhumanisme, l'intelligence artificielle va est censée aider aussi et augmenter l'être humain. Donc, il y a un don réciproque.
Bonjour. Moi, je voulais rebondir en fait sur la notion de méca. Je pensais notamment à Transformers, qui est un peu une aberration puisque c'est inspiré d'une ligne de jouets japonais, mais ça a été repris par les Américains. Et en fait, on garde vraiment cet aspect de méca qui est certes adapté au monde humain puisqu'ils peuvent se transformer en toutes sortes de véhicules, mais ils ont quand même une conscience et un caractère assez développé, si on en croit les anciens dessins animés et pas les films de Michael Bay. Du coup, je voudrais savoir un peu votre avis par rapport à ça. Est-ce que la notion américaine de la robotique peut pas se mêler en fait au méca? Il y a aussi Ghost in the Shell, mais Evangelion, qui est un peu aussi dans cet esprit avec les mécas qui n'en sont pas vraiment. Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? À mon avis, Evangelion, on est vraiment dans le cas de l'armure habitée. C'est une version un petit peu réduite du robot géant, mais on est comme dans Gundam, ce sont des histoires où là, bizarrement, le personnage, c'est un habitacle, c'est une armure, sans qu'il ait forcément une autonomie. Sur Transformers, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Non. Peut-être que Transformers, enfin là, je vais hasarder une hypothèse, mais c'est peut-être tout simplement la rencontre entre le robot géant piloté et le robot au service de l'homme. Donc là, le robot, certes, est un être doué de conscience, et en même temps, il prend des formes de véhicules qui sont utiles aux êtres humains, et il joue à être leur serviteur, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question, et puis on va conclure? Ouais.
Bonjour. Moi, j'aurais une question sur la qualité de fantasme de la robotique. En effet, ben, le robot, vous l'avez dit, c'est un fantasme de puissance, c'est un fantasme aussi de création, de créer son égal. Mais quelque chose que j'ai rarement, je ne crois même jamais vu, c'est l'idée, parce que le robot est toujours associé à une certaine forme de positivisme, c'est-à-dire que le robot, on va aller vers une intelligence égale à l'humain ou supérieure, mais on n'a jamais l'idée qu'il puisse y avoir un échec de ce but à atteindre. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous penseriez si justement il y avait un récit, une BD, un film qui parlerait justement de recherche d'un dépassement de l'intelligence artificielle, mais qu'on découvre qu'en fait, c'est complètement impossible et que tous ces fantasmes ne resteront jamais que des fantasmes. Merci.
Qui veut répondre?
Moi, je pense que c'est une question qui dépasse le cadre simplement de la robotique, mais qui est celle des ressources... qui est celle des ressources naturelles, en fait, et de l'avenir de l'humain et du vivant sur Terre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on soit capable de développer autant d'intelligence artificielle et autant de progrès, entre guillemets, technologiques. Pour moi, il n'y a pas de solution durable à ça. Il y a des fictions qui vont plus vers de l'effondrement, vers un monde qui s'effondre, vers un monde parfois post-apocalyptique. Voilà, moi j'ai l'impression que les récits qui empêcheraient ça seraient plutôt liés à la capacité de soutenabilité de la planète. Après, si on est dans le cadre de la technologie, c'est possible, mais ce n'est qu'un fantasme. J'en sais absolument rien. Moi, c'est la réponse que je peux faire, c'est par rapport à l'état de la planète et quelle place il va y avoir dans l'avenir à la technologie. On parle de technologie.
Oui, on va s'arrêter là. Je vais juste, pour conclure, rappeler très brièvement votre actualité à chacun. Gwen de Bolval, vous co-scénarisez actuellement une série avec Fabien Weymann qui s'appelle Le Dernier Atlas, dans laquelle il sera question de robots géants et d'Uchronie. Le premier tome est prévu pour 2018.
Oui, c'est ça. On va faire trois fois 200 pages.
D'accord. Arleston, vous préparez une nouvelle série de Planet Fantasy qui s'appelle Sangre.
Oui, qui est sortie la semaine dernière, le tome 1.
8 volumes sont prévus.
8 volumes, l'histoire de vengeance.
Xavier Roméjean, vous avez une parution récente ou prévue à annoncer peut-être ?
Je travaille en ce moment sur une série fantastique pour Canal+.
Merci. Olivier Cotte, donc je rappelle l'apparition du livre Dark Vador versus Monsieur Spock chez Duno, que vous co-signez avec Jeanne Adebats. Vous avez peut-être une sortie prochaine à annoncer ?
En fait, il y a une nouvelle BD que j'ai scénarisée qui sortira l'année prochaine et qui justement traite de l'après-fin du monde géré par les IA.
Et Valérie Mangin, vous écrivez en ce moment une bande dessinée sur le thème de ce qui constitue l'humanité et qui montre un androïde conscient au milieu d'hommes transformés en automates décérébrés. Vous voulez nous en dire un tout petit mot ?
J'écris ça avec Denis Bajram en fait pour Thibaut de Rochebrune. Et c'est vrai que ce sera une grosse histoire autour d'un vaisseau qui s'écrase sur une mystérieuse planète. Un vaisseau avec des passagers humains accompagnés d'un androïde, enfin d'une IA. Et sur cette planète, on découvre que d'autres humains se sont écrasés avant eux et ont perdu quasiment tout ce qui faisait leur humanité, ont été réduits à l'état de zombies, ne vivent que pour survivre finalement, manger, faire des tâches idiotes et sans but et mourir finalement, quoi. Et c'est l'occasion de s'interroger effectivement sur ce qui fait vraiment l'humain. Est-ce que l'androïde n'est pas finalement plus humain que ces humains-là ?
Très bien. Merci à tous.